France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La Russie intensifie ses bombardements sur l'Ukraine. 25 morts dans la seule ville de Ternopil dans l'Ouest. Au même moment, le média Axios affirme que les Américains et les Russes négocient secrètement un plan de paix. L'Union européenne veut assouplir les contraintes réglementaires sur l'intelligence artificielle. Objectif: relancer la compétitivité européenne face aux géants américains. En France, la Cour des comptes s'appelle à amplifier la stratégie nationale en matière d'IA. Un nouveau patron pour la coordination rurale, l'éleveur Bertrand Vanteau. Il représente l'aile dure du deuxième syndicat agricole français, partisan des actions coup de poing. Il y a urgence à rénover le Louvre, malade de son succès. C'est François Chatillon, l'architecte en chef du musée, qui le dit. Nous reviendrons sur son audition devant les députés ce matin. L'Ukraine a essuyé la nuit dernière un nouveau déluge de feux russes, 476 drones et 48 missiles. La défense antiaérienne a réussi à abattre plus de 90% de ses engins, mais les autres ont encore une fois semé la mort. À Ternopil, une ville de l'ouest de l'Ukraine, située loin du front, 25 personnes ont été tuées, dont 3 enfants. La Russie affirme ne viser que des cibles militaires, mais les frappes ont surtout ravagé des immeubles d'habitation. À Kharkiv, à proximité immédiate de la frontière russe, une attaque de drone a fait 36 blessés. Il s'agissait de la troisième nuit consécutive de raids russes dans la région de la deuxième ville ukrainienne. Le reportage sur place de notre envoyé spécial Virginie Pironon.
Sous les premiers flocons de neige de la saison, les services municipaux ont passé la journée à réparer les dégâts causés par les drones Shahed. Ici, un supermarché, là, une salle de sport ou encore une station électrique dans un quartier sud de la ville. C'est là, dans une barre d'immeubles, qu'habite Alexandre, 40 ans.
Ils sont arrivés les uns après les autres. Ils étaient 5. On a entendu le son des Shahed et bam. Tout a été soufflé, ça a pris feu. Il y a eu de la fumée, plus de lumière. Toutes les fenêtres qui donnent de ce côté ont volé, même le frigo.
Mikola habite à quelques paliers de là, le même immeuble, 400 appartements. Avec la proximité de la station électrique totalement dévastée, il s'attendait à une telle attaque.
Tout le monde ici se demandait quand est-ce que ça allait arriver. Il y a un mois, je discutais avec des amis et on se disait « ça va venir, mais quand ?» Et voilà, ce jour est arrivé.
Pour l'aider à nettoyer chez lui les débris de verre, les vitres soufflées, des voisins sont venus en renfort. Son amie Tatiana fait de l'humour. Vous savez ce qu'il a sauvé ? C'est qu'il a encore été courir les filles. Vous voyez, parfois ça aide. Dans la cuisine, les amis sortent une bouteille de cognac. Allez, on trinque. Tout ira bien. Oui, enfin, on espère.
Le reportage à Kharkiv de Virginie Pironon avec Marc Garvenès et Yachar Fazilov. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ces frappes montrent que la pression sur la Russie est insuffisante. Voilà à quoi ressemblent en réalité les plans de paix russes, a ironisé le chef de la diplomatie ukrainienne Andriy Sibiga. À propos de plans de paix justement, le média américain Axios affirme que Washington et Moscou sont en train de négocier discrètement pour mettre fin à la guerre. Interrogé, le Kremlin a refusé de commenter ces informations. Nous sommes avec Timur Özturk, correspondant aux États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Timur, que sait-on de ce plan de paix américano-russe révélé par Axios ?
Ce serait un plan de paix en 28 points, articulé autour de 4 grands axes. La paix en Ukraine, les garanties de sécurité, la sécurité en Europe et les futures relations entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Et on n'en sait pas beaucoup plus sur le détail. La presse américaine n'a pas réussi à savoir ce qui est prévu, notamment sur la question des territoires ukrainiens occupés et revendiqués par la Russie. Le point inquiétant pour l'Ukraine, c'est que le plan de paix a été discuté sans Kiev dans un premier temps. Kirill Dmitriev, directeur du fonds souverain russe, dit avoir passé 3 jours en Floride fin octobre pour négocier avec Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, et il se dit optimiste car, je cite, « nous avons le sentiment que la position russe est vraiment entendue ». Depuis, des émissaires du Pentagone ont été envoyés à Kiev, c'est ce qui a mis la puce à l'oreille de la presse américaine. Une délégation de militaires menée par le secrétaire à l'armée, Dan Driscoll, pour mener des négociations, rencontrer Volodymyr Zelensky, puis discuter avec la parti russe. D'après le média Politico, qui enquête également, Ukrainiens et Européens ont été laissés jusqu'à présent à l'écart et il s'agirait de présenter le plan comme un fait accompli à Kiev sans se soucier de l'avis de l'UE en profitant des fragilités de Zelensky sur le front. Le plan pourrait être officiellement annoncé dans les jours à venir. Dans ce cas, une nouvelle rencontre Trump-Poutine serait à l'ordre du jour.
Timur Özturk en direct d'Atlanta. En Chine, le régime communiste de Xi Jinping accentue la répression religieuse contre les mouvements non reconnus, en particulier au sein des églises chrétiennes. Une vague d'arrestations sans précédent touche cet automne un puissant mouvement protestant. L'église de Sion, son fondateur, a été jeté en prison. Sans nouvelles depuis plusieurs semaines, sa fille lance un appel à sa libération. Sébastien Berriot nous appelle de Pékin.
En Chine, le Parti communiste exerce un contrôle très étroit sur tout ce qui touche à la religion. Mais grâce aux réseaux sociaux et à Internet, certains mouvements religieux non reconnus ou même interdits parviennent à prospérer et recruter des fidèles. C'est le cas de l'église de Sion, créée en 2007, devenue aujourd'hui l'une des principales associations protestantes de Chine. Une popularité suivie de très près à Pékin, qui vient donc de lancer une vaste opération d'arrestation, 22 personnes détenues officiellement pour usage illégal des réseaux d'information. Le fondateur et pasteur de l'église de Sion, Jin Mingzhe, fait partie des personnes arrêtées. Sa fille Grace, qui réside aux États-Unis, se dit très inquiète.
Nous pensons que cela préfigure une répression plus importante contre les croyances religieuses et en particulier la chrétienté. L'église de Sion pourrait bien être la première visée dans cette opération à cause de sa taille considérable et de son influence. Le but est d'en faire un exemple pour faire peur. J'espère que la communauté internationale réagira pour condamner cette répression.
La fille du pasteur arrêté explique que son père ne fait pas de politique, mais qu'il a créé l'église de Sion pour qu'elle soit indépendante et non contrôlée par le Parti communiste. C'est précisément ce qui aujourd'hui explique cette répression qui s'abat sur le mouvement.
Sébastien Berriot, correspondant de France Culture en Chine. Aux États-Unis, des élus du Congrès ont présenté une résolution pour condamner ces arrestations. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, dénonce lui aussi une répression. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes a lieu comme chaque année le 25 novembre. Mais dès aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la Santé, publie un rapport alarmant sur la question. 840 millions de femmes dans le monde sont ou ont été victimes de violences physiques ou sexuelles dans leur vie. C'est une femme sur trois et ces chiffres n'ont quasiment pas changé depuis les années 2000. Pour relever le défi de l'intelligence artificielle, l'Union européenne a annoncé aujourd'hui une série de mesures visant à alléger les contraintes réglementaires qui pèsent sur l'IA. L'objectif est clair, redresser la compétitivité européenne dans un secteur largement dominé par les géants américains, sans pour autant affaiblir les droits des citoyens et des consommateurs. Cet assouplissement concerne d'abord les systèmes à haut risque, dans des domaines sensibles comme la sécurité ou la santé. Et on retrouve à Bruxelles Fabien Cazot.
Ce sont d'abord des délais supplémentaires jusqu'à 16 mois qui sont laissés aux entreprises pour se conformer aux règles européennes sur l'intelligence artificielle dans les domaines les plus sensibles qui engagent les droits fondamentaux des citoyens européens. Il y a ensuite un train de mesures qui vise à alléger les obligations administratives des entreprises du secteur, objectif assumé par la commissaire européenne en charge de la souveraineté technologique, Enna Virkkunen, combler les écarts de compétitivité dans le domaine de l'IA avec les États-Unis.
Nous voulons développer l'innovation et les investissements au sein de l'Union. Donc nous voulons soutenir nos start-up, nos PME, pour qu'elles grandissent et innovent chez nous. Nos mesures ne s'adressent pas vraiment aux grandes entreprises, car elles ont tout ce qu'il faut pour remplir leurs obligations partout où elles sont implantées. C'est surtout pour les start-up et les PME que nous voulons réduire la bureaucratie et les obligations déclaratives.
Un toilettage réglementaire qui ne se fera pas au détriment des droits et de la vie privée des citoyens européens, insiste la Commission, qui parle de modifications ciblées pour permettre 5 milliards d'économies en coûts administratifs, selon ses propres chiffrages, d'ici 2029.
Fabien Cazot, correspondant à Bruxelles. Cet assouplissement européen intervient au moment où, en France, la Cour des comptes publie un rapport sur le troisième volet de la stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle. Une stratégie qui doit changer d'échelle, estime la Cour. Annabelle Grelier, premier constat de la Cour des comptes, la France est aujourd'hui dans le peloton de tête mondial de l'intelligence artificielle.
La France est passée de la 13e à la 5e place dans le Global AI Index, classement de référence de l'IA au niveau mondial. Avec 4000 chercheurs en IA, la France se hisse même au 3e rang mondial en matière de recherche et de formation. Le nombre de start-up françaises en IA a doublé depuis 2021 pour passer à 1 000 000, dont 16 d'entre elles ont atteint le statut envié de licorne, c'est-à-dire valorisé à plus d'un milliard d'euros. La France est donc dans une bonne dynamique, reconnaît la Cour des comptes. Elle a structuré sa recherche, développé un écosystème et est même parvenue à se hisser à la tête des pays européens, y compris sur les technologies les plus récente de l'IA générative avec son champion Mistral AI. Une vitrine qu'elle a su faire briller avec en février dernier son sommet international qui l'a propulsé premier pays européen en nombre de projets d'investissement étrangers dans l'IA. Salut également les sages de la rue Cambon.
Mais elle va devoir faire plus, beaucoup plus pour changer d'échelle comme le dit la Cour des comptes, car la France aujourd'hui, Annabelle, ne peut se comparer aux géants américains et chinois.
Quand on voit les milliards de dollars qui sont mobilisés sur le déploiement de l'IA aux États-Unis, on est évidemment loin du compte en France. 2,4 milliards d'euros sur 7 ans. Pour la période 2023-2025, la Cour dénonce une allocation de crédit d'1,3 milliard d'euros, inférieure d'un tiers à ce qui avait été annoncé et dont la lenteur du déploiement avait conduit à l'usage de seulement 35% des fonds. La Cour préconise alors l'accélération des prises de décision, rappelant que les 5 prochaines années vont être décisives. Il nous faut accroître nos capacités de calcul. Les supercalculateurs pour entraîner les modèles d'IA coûtent des fortunes. Il faut le faire avec l'Union européenne et des partenariats publics-privés. Il faut aussi investir dans les capacités de stockage souverain des données. Et surtout, selon la Cour des comptes, il devient impératif d'accompagner massivement les entreprises dans l'adoption de l'intelligence artificielle, mais pas pour qu'elles se contentent d'acheter des outils américains, mais pour qu'elles co-construisent des solutions avec les acteurs français et européens, si l'on veut parler de souveraineté.
Annabelle Grelier, merci pour ces explications. C'est au Sénat que se poursuit aujourd'hui la bataille budgétaire. Les sénateurs ont commencé à examiner cet après-midi le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La droite et le centre majoritaire au Palais du Luxembourg ont bien l'intention de détricoter la copie de l'Assemblée, à commencer par la suspension de la réforme des retraites. On retrouve au Sénat Nicolas Ballut, bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas, 4 ministres sont présents pour défendre la position du gouvernement, parmi lesquels Stéphanie Rist, en charge de la santé, et Amélie de Montchalin, responsable des comptes publics.
Oui, il existe une majorité de responsabilité de compromis. C'est l'expression de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, chargée de présenter un texte qu'elle ne reconnaît pas tout à fait. Celui voté par les députés est chiffré à 24 millions d'euros. En tout cas, le déficit estimé, c'est le déficit estimé par le gouvernement. Alors, Amélie de Montchalin fait quelques rappels aux sénateurs.
Les conditions d'examen du PLFSS sont cette année particulièrement défavorables au Sénat. Vous le savez, nous...
Donc Amélie de Montchalin qui précise « Nous ne devons pas aller au-delà des 20 milliards de déficit. Nous devons être vigilants sur les transferts. Et notre objectif, eh bien, ça ne doit pas être seulement 2026, mais également 2029, c'est-à-dire la date, l'année du retour à l'équilibre pour la sécurité sociale. » Si la ministre appelle au compromis, c'est autant avec les députés qu'avec le gouvernement. Les sénateurs s'apprête à supprimer la suspension de la réforme des retraites défendue ou à rétablir l'année blanche. La discussion générale sur le texte va bientôt démarrer. Mais on a une petite idée de la teneur des échanges dans cette enceinte habituellement feutrée lorsque Corinne Imbert, la rapporteure générale de la Commission des affaires sociales pour la branche maladie, a pris la parole.
Les conditions d'examen du PLFSS sont cette année particulièrement défavorables au Sénat. Vous le savez, nous avons disposé d'un temps exceptionnellement court pour l'instruire, alors que pour la seule branche maladie, le texte qui comptait 22 articles au dépôt en compte désormais 56. Sur le fond, dire que ce PLFSS n'a pas convaincu notre commission est un euphémisme.
La gauche a déjà prévenu de son côté qu'elle va entrer en résistance. Les présidents de groupe vont s'exprimer dans un instant. Le groupe communiste et écologiste dépose une motion d'exception d'irrecevabilité.
Merci Nicolas Ballu en direct du Sénat avec Fabien Gosset pour les moyens techniques. La coordination rurale va-t-elle se radicaliser? Réunie en congrès à Auch dans le Gers, le deuxième syndicat agricole français a élu aujourd'hui un nouveau président, l'éleveur Bertrand Ventot, par 74 voix contre 68. Il a battu la présidente sortante Véronique Le Floch. La coordination rurale a fait une percée aux dernières élections professionnelles en décrochant 11 chambres d'agriculture, brisant ainsi la majorité absolue du premier syndicat, la FNSEA. Et son nouveau leader incarne la ligne dure d'une organisation connue pour ses actions musclées, Édouard Marguier.
Il veut défendre les paysans, comme il dit, avec la méthode forte. Bertrand Ventot, 46 ans, est éleveur de vaches de race limousine. Président de la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne depuis 2019, il est connu pour ses prises de parole polémiques, comme il y a 3 ans sur France Bleu Limousin.
Quant aux écologistes, on les connaît, c'est-à-dire qu'ils vous disent « attention, le réchauffement climatique est là », et quand on arrive avec nos solutions, nous, le monde agricole, ils nous tapent dessus, ils nous bloquent, donc c'est des terroristes, c'est pas des écologistes, c'est des terroristes.
Le mot un petit peu fort quand même.
C'est des terroristes qui nous empêchent d'avoir une vision à 30 ans, ce sont des gens dangereux, et j'assume ce que je dis.
Bertrand Ventot souhaite des manifestations médiatiques à l'image de ce que propose la puissante coordination rurale du Lot-et-Garonne, la tentative de blocage de Paris l'hiver dernier ou encore le saccage des locaux de l'Office français de la biodiversité, des actions saluées par Bertrand Ventot à rebours de sa rivale. Véronique Le Floch, de son côté, prenait le dialogue avec le gouvernement. Il l'accusait de faire du syndicat une FNSEA bis. Les militants ont décidé de le suivre.
Édouard Marguier. Un mois après le cambriolage de la galerie Apollon, la présidente du Louvre, Laurence Descartes, a été auditionnée ce matin à l'Assemblée par la Commission des affaires culturelles. Elle avait déjà dû s'expliquer devant les sénateurs 3 jours après le vol de bijoux. Depuis, la Cour des comptes a épinglé ses choix stratégiques, lui reprochant notamment d'avoir négligé la sécurité du musée. Devant les députés, Laurence Descartes a annoncé l'installation de 100 caméras aux abords du Louvre d'ici la fin 2026. Un poste avancé mobile de la police sera aussi mise en place. La patronne du musée a également défendu le projet Louvre Nouvelle Renaissance présenté par Emmanuel Macron en janvier. Projet qui prévoit la création d'une deuxième entrée, d'une nouvelle salle pour la Joconde et la rénovation des bâtiments existants. Chloé Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Une rénovation plus qu'indispensable alors que le Louvre a annoncé lundi la fermeture de la galerie Campana. Il y a urgence pour l'architecte en chef des monuments historiques en charge du musée, également présent ce matin à l'audition.
Ça ne peut pas durer, le bâtiment n'est pas en bon état. Voilà le tableau dépeint par François Chatillon. C'est lui qui a pris la décision de fermer lundi la galerie Campana et ses 9 salles dédiées à la céramique grecque antique. Une mesure de précaution à cause de la fragilité de certaines poutres.
Il y a des études qui avaient été demandées par mon prédécesseur qui montraient des mouvements et de façon tout à fait responsable, j'ai demandé par mesure de précaution assez simple d'éviter qu'on court sur ce plancher le temps qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on aille dans les travaux de confortement. Les planchers dont on parle ont été faits en béton en 1937, bricolés au-dessus de planchers bois. Il y a donc un tas de bricolages comme ça qui sont complètement en fin de vie.
Et certaines parties du bâtiment n'ont jamais fait l'objet d'importants travaux de rénovation. Le musée se retrouve donc aujourd'hui au pied du mur, et François Chatillon l'affirme, d'autres galeries devront tôt ou tard fermer.
Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Oui, il y en aura d'autres. Est-ce qu'il faut de l'argent ? Oui, il faut de l'argent. Est-ce que l'État a cet argent ? Alors l'État n'a peut-être pas les moyens, mais la France le doit. Dans un bâtiment comme ça, l'écueil, celui dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le bricolage. C'est ce qu'on fait depuis 30 ans au musée du Louvre. Aujourd'hui, il faut rationaliser les choses.
Et ça passe par des études préalables, des diagnostics, des schémas directeurs. 12 personnes y travaillent à plein temps pour le Louvre. Elles imaginent aussi des dispositifs pour concilier la rénovation et la sécurité avec les contraintes des monuments historiques.
Merci Chloé Martin. Le festival de BD d'Angoulême semble chaque jour un peu plus menacé. Nouvel épisode aujourd'hui, les grands éditeurs de bande dessinée estiment que la prochaine édition en janvier ne pourra pas se tenir en raison de la fronde persistante des auteurs. Au cœur de la crise, le rejet de la société organisatrice 9e Art Plus, critiqué pour ses méthodes de gestion. La ministre de la Culture, Rachida Dati, déclare ce soir souhaiter que l'édition 2026 du Festival d'Angoulême puisse se tenir sans se voiler la face sur les conditions particulières de l'événement. Fin de citation. Le temps demain, le froid s'installe sur tout le pays. Il neigera à faible altitude sur de nombreuses régions, du Massif central aux Hauts-de-France. Le temps sera plus sec près de la Méditerranée, mais le soleil sera voilé. Demain matin, les gelées seront généralisées jusqu'à moins 2 degrés en moyenne. L'après-midi, il fera entre 3 et 7 degrés sur la plupart des régions. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique, Grégory Wallon.